Bonjour, donc je fais partie des étudiants. Je suis jumeau, homozygote. Et donc l'intérêt de l'épigénisme chez les jumeaux homozygotes, donc ayant le même patrimoine génétique au départ, est quand même intéressant. Et les modifications de comportement, de mes attitudes entre mon frère jumeau et moi, n'habitant pas au même endroit, bien sûr, n'ayant pas la même culture, enfin, pas la même culture médicale, ça a son intérêt. Je crois qu'il y a des centres dans le monde qui s'occupent de ce genre de problème. Quelle est la transmission que nous pouvons transmettre? Je pense qu'il y a des études qui se font là-dessus et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Merci.
Merci pour vous. Oui, voilà, vous mettez vos questions. L'étude des jumeaux, ça a été un sujet compliqué parce qu'en particulier, il y a eu d'énormes études sur l'hérédité de l'intelligence sur les jumeaux qui ont été faites en Angleterre au milieu du siècle et qui ont été, dans le sens, rendues après la mort de leur auteur, qu'elles étaient complètement fausses, qu'il avait triché sur tous les résultats pour augmenter la part du génétique. En fait, le problème, c'est que les jumeaux, ce n'est pas très pratique pour étudier l'épigénèse par rapport au génétique parce que, évidemment, vous avez non seulement les mêmes gènes, mais aussi les mêmes parents. Et la même mère, donc l'épigénèse et le génétique se confrontent chez les jumeaux. C'est une manière intéressante pour étudier les effets de l'environnement, sous réserve que les jumeaux soient séparés. Les méthodes qui sont plus souvent utilisées aujourd'hui, ce sont des méthodes des adoptions, parce que, effectivement, quand vous avez un enfant adopté, vous pouvez connaître ses parents biologiques et ses parents adoptifs, alors vous pouvez essayer avec ça que l'histoire du QI a été dévoilée. On a trouvé que le QI d'un enfant était en gros la moyenne du QI de ses parents adoptifs et de ses parents biologique, ce qui était une surprise, on s'attendait quand même à une influence plus forte des parents adoptifs que des parents biologiques. Et le deuxième, en fait, le système idéal pour étudier la génétique des caractéristiques humaines, ça serait d'utiliser les banques de sperme. Puisque là, on a des enfants qui possèdent des gènes en commun et rien d'autre. Et avec des milieux sociaux qui peuvent être très différents. Donc, effectivement, les jumeaux sont aussi étudiés, mais c'est rare qu'on ait des cas où les jumeaux étaient séparés tellement tôt qu'on peut libérer les questions d'environnement et les questions de gènes. Et pour ce qui concerne la jeunesse par rapport à la génétique, par rapport à l'épigénétique, les jumeaux, ça marche.
Merci. Je vais passer la parole au docteur Rémi Seba, qui est le président du comité d'organisation de ce congrès, mais qui va lui aussi poser une question.
Merci, M. Poubani. Et merci aux quatre premières interventions, parce que même si on n'a pas posé de questions à Joël Spirou, président du comité scientifique, c'était un exposé très, très éclairant. Une première question qui me vient à l'esprit, c'est pour M. Della Monica. Parce que vous nous avez dit, et c'est un peu effrayant, qu'on n'aura pas de possibilité de découverte de nouvelles antibiotiques dans les 8 à 10 ans. C'est une question un peu provocatrice. Est-ce que le système français actuel fait que les laboratoires cherchent moins parce que c'est trop difficile avec les moyens qu'ils ont de restreindre? Donc, c'est un peu provocateur, mais je veux savoir ce que vous en pensez.
Alors, non, franchement, ce n'est pas vraiment provocateur. Alors, la première chose qu'on peut dire pour essayer de vous répondre, c'est que les principales cibles bactériennes facilement accessibles ont été utilisées par les antibiotiques disponibles aujourd'hui. Donc, c'est vrai que la recherche d'autres cibles ou d'autres cibles combinées est évidemment plus difficile. Donc, nécessite des investissements supérieurs, et c'est la deuxième partie de votre question. Alors, dans les pays où, évidemment, la recherche est possible, on n'a pas appréhendé la question comme ça. Les industriels de la pharmacie l'ont appréhendé en termes de qu'est-ce qui allait se vendre le mieux, le plus longtemps et qui allait être le plus cher et générer le plus de bénéfices potentiels. Donc, fatalement, ils sont allés sur tout ce qui est maladie chronique, hein, puisque c'est le traitement au long cours, alors qu'un traitement antibiotique, au mieux, commercialement, c'est quelques semaines. Donc, il faudrait, si vous voulez, que le traitement antibiotique nouveau, pour générer un investissement en recherche du même type que celui sur une maladie chronique, atteigne des prix sur 10-15 jours, enfin sur la durée habituelle d'un traitement antibiotique, qui soit comparable, en gros, à un traitement qui va être donné pendant des semaines, des mois, voire des années dans une maladie chronique. Vous voyez que là, il y a déjà une difficulté qui est majeure par rapport à la recherche, je dirais, privée. Donc, quel investissement, pour quel bénéfice amortissant la recherche. Et puis après, il y a le problème de la recherche publique derrière ça. On a pu dire, et on a dit à l'époque, c'était la recherche publique de prendre le relais. Mais la recherche publique, si vous voulez, pour l'instant, il faudrait y faire des investissements majeurs, massifs, pour relever ce type de défi. Ce qui, dans aucun pays développé n'est le cas, sauf peut-être un peu aux États-Unis maintenant, où on commence à se rendre compte que l'émergence de la résistance est telle qu'il va y avoir de l'impasse thérapeutique de plus en plus, et que ça va poser des problèmes sociaux, c'est-à-dire les gens vont s'interroger comment se fait-il que des maladies qu'on guérissait quasi à 100% il y a 10 ans, on ne les guérisse plus aujourd'hui. Donc ils sont face, si vous voulez, à une demande potentielle du public d'explications sur l'absence de stratégie possible. Mais en plus de tout ce que vous avez dit là, il y a un autre problème, c'est que pour certaines maladies qu'on connaît bien, pour lesquelles il existe des vaccins, alors l'exemple a été pris de l'hépatite B par certains d'entre nous ce matin déjà, donc on sait qu'on a un vaccin qui est disponible, qui marche très bien, on sait que l'hépatite B a un taux d'incidence qui peut aller jusqu'à 30% dans des pays de l'Asie, alors qu'il est autour de 1% chez nous, mais que du fait des voyages, etc., etc., donc on a beaucoup de nouveaux cas, on sait que ça donne un cancer, et malgré ça, vous avez des gens qui sont opposés au vaccin, évidemment, ils ne jugent pas en bénéfice-risque, ils ne voient que du risque et pas de bénéfice, parce que je pense qu'ils ignorent tous ces chiffres, et que donc ce deuxième problème, c'est comment faire admettre au public que déjà sur ce qui est disponible, ils l'utilisent convenablement. Donc on fait appel pour ça à des techniques de marketing social, hein, c'est ce que utilisent les grands magasins pour vendre des choses, mais qu'en santé, on ne sait toujours pas faire, que nos dirigeants, moi je travaille un peu au ministère de la Santé, vous l'avez compris, je m'occupe de ce plan, donc comme je leur dis, allez sur Facebook, créez de l'information validée, enfin, que les gens vont consulter, puisque c'est ça qu'ils vont regarder aujourd'hui, eh bien, c'est très difficile de faire admettre un État qui va utiliser ce type d'information. Donc, vous voyez, c'est très compliqué comme problème, et je pense que si nous-mêmes, professionnels de santé, on ne réagit pas violemment aujourd'hui, notamment dans des pays développés comme le nôtre qui dépensent beaucoup en antibiotiques, alors je ne parle pas de la Suède, hein, puisque le comportement d'un jeune en Suède, ce sera s'il a le rhume, il ne va pas lui demander des antibiotiques, pas plus que s'il a la grippe, il est éduqué à ça. Donc, si vous voulez, on a le souci, pour résumer, de préservation de ce qu'on a aujourd'hui, d'utilisation optimale de ce qu'on a aujourd'hui, en l'occurrence des vaccins, hein, je vous ai dit tout à l'heure, vaccin contre la grippe, ça évite, dans la période hivernale, 10 à 30, 30% de la prescription d'antibiotiques. Alors, pourquoi on ne le fait pas? Et puis, de l'autre côté, il y a la recherche. Et la recherche, donc, vous avez compris, la difficulté de l'enjeu.
Merci, professeur Bouillon.
Je voulais ajouter deux points. Premièrement, je pense qu'effectivement, il faut quand même avouer que c'est de plus en plus difficile de trouver des nouveaux antibiotiques. D'ailleurs, c'est pas pour toutes les molécules, les herbicides, on ne trouve plus des nouveaux, plus de nouveaux pratiquants, etc. Donc, il y a des molécules qui n'étaient pas trop difficiles à trouver, on les a trouvées, puis maintenant, ça demande vraiment des compétences qu'on n'a peut-être même pas. Alors, il y a eu quelques espoirs avec ce qu'on appelle les petits antibactériens qui sortaient des génomes, mais là, je dois vous dire que personnellement, je suis un peu effrayé parce qu'on a utilisé, on a prévu d'utiliser ces petits antibactériens. Et ça, c'est des petits peptides que tous les êtres vivants produisent, ils sont très très divers et qui tuent les bactéries. C'est comme ça que vous pouvez, par exemple, contrôler le fait que vos bactéries ne mangent pas la peau. Alors, vos produits des petits antibactériens qui limitent la population bactérienne à sa surface. Et ce que j'ai trouvé fou, c'est que dès qu'on a découvert ça, on a commencé à sortir les gènes, grâce à un séquençage de génome, à sortir les gènes des petits antibactériens et à fabriquer des startups qui allaient produire ces petits antibactériens sans aucune étude de risque, alors qu'on était en train de jouer avec nos défenses naturelles. Donc, il y a des groupes aujourd'hui qui commercialisent des petits humains pour mettre dans la bouffe, par exemple. c'est qu'on est en train de sélectionner non seulement les résistances aux antibiotiques, mais les résistances à nos propres défenses. Donc là, il y aura quelque chose à faire. Et il n'y a eu aucun moyen d'alerter l'agence de santé sur cette question. J'ai fait un papier, un article dans le Journal of Microbiology avec un collègue qui a dit non, on avait montré tout ça, mais ça n'a pas eu le moindre impact. Le deuxième point que je voulais soulever, c'est que sur ces affaires, on n'arrête pas de culpabiliser les malades et les médecins, à juste titre, parce qu'en France, ils prescrivent trop d'antibiotiques, dans le milieu de l'agriculture, dans laquelle 50% des antibiotiques partent, tout simplement parce qu'on fait des élevages industriels du temps. Donc je pense qu'il faudrait quand même qu'au niveau politique, il y ait une vraie action du ministère de la Santé auprès du ministère de l'Agriculture sur ces questions.
Je viens tout à fait en décharge de ce que vous venez de dire, parce qu'il y a un plan vétérinaire, de la même façon, hein, puisqu'on a eu, comme vous le savez, beaucoup de peine à convaincre les ministères de l'Agriculture, l'échelon européen, de lancer un plan aussi dans le bon usage pour les vétérinaires. Donc maintenant, il y a un plan avec un objectif chiffré de baisse de 25%. Mais on tombe sur des problèmes, là encore, je vais vous dire, d'épigénétique, puisque les vétérinaires prescripteurs sont en même temps les dispensateurs des antibiotiques qui prescrivent. Donc, si vous voulez, on a un conflit économique à ce niveau qui fait que ça va être très difficile d'obtenir les 20% de baisse dans le monde animal. Alors, dans le monde animal, on a toutefois obtenu que les molécules utilisées ne soient pas les mêmes que chez l'homme, j'entends avec des mécanismes, si possible, qui soient différents, puisque vous pouvez avoir des noms différents, mais si le mécanisme d'action, c'est le même, vous sélectionnez de la même façon. Donc, on est en train de faire attention à tout ça. Alors, quand je dis monde animal, c'est l'élevage, le vin, les poissons, enfin, tout ce que vous imaginez, même dans l'agriculture, on est en train de le faire. Voilà, donc, c'est en route. Il va y avoir beaucoup de difficultés. Et une autre difficulté qu'il faut bien se mettre à l'esprit, c'est que beaucoup de ces antibiotiques ont été utilisés comme substituts alimentaires. C'est-à-dire, quand vous les donniez à l'animal, ça augmentait son poids d'en gros 10% par une meilleure absorption des nutriments, enfin, par différents mécanismes, et que ces 10% définitifs, c'était le bénéfice des éleveurs. Donc, le jour où vous le retirez, ben, il faut trouver le moyen d'avoir une compensation pour ces gens-là, pour qu'ils, par rapport à la situation acquise, ils ne soient pas complètement lésés. Et c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui dans le coût de la viande de porc, par exemple, ou de bœuf, enfin, etc. Donc, vous voyez, le problème est complexe, mais c'est en route.
Docteur, juste un mot. Vous voyez qu'on est vraiment dans un problématique, quand je vous ai parlé des différentes catégories d'environnement, dont l'environnement socio-anthropologique. Ben vous voyez bien que là, on est vraiment dans un problème socio-anthropologique, c'est-à-dire, Pierre-Henri l'a remarqué, quelle agriculture voulons-nous? Comment nourrir les animaux? Comment traiter les champs? Je vous rappelle que, par exemple, il y a certains gènes de résistance aux antibiotiques dans certains OGM, par exemple, hein, que l'on cultive sur la planète. Mais pour aller au-delà de cela, puisqu'on a parlé de l'environnement biologique, je vous ferai quand même remarquer que l'environnement socio-anthropologique est fondamental. En 2010, l'OMS a sorti des statistiques sur les pathologies infectieuses et nous a dit qu'on était plus morts de pathologies infectieuses au cours du XXe siècle que de toutes les guerres réunies au cours de ce même siècle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on y réfléchit bien, on a quand même mis beaucoup plus d'argent pour faire les guerres que pour essayer d'améliorer l'hygiène et de traiter les problématiques bactériennes et virales de la population mondiale. Donc il faut vraiment comprendre que cette affaire de pathologie environnementale, c'est vraiment une affaire éminemment complexe, mais il faut essayer de décrypter un petit peu ce qui se passe en sous-jacent, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Merci. Je n'oublie pas la salle, mais le débat va continuer un petit peu ici.
Juste deux questions courtes. Une première sur, je voulais vous poser, est-ce que l'épigénétique remet un petit peu au goût du jour la théorie de la marque sur l'évolution? Et la deuxième, c'est pour savoir si le phénomène de résistance aux antibiotiques ne serait pas dû aussi en partie, je ne sais pas, à une question totalement naïve, ne serait pas en partie la présence de xénobiotiques aussi dans le tube intestinal.
Voilà, rapidement, la marque, le problème, c'est que heureusement, personne ne le lit plus, donc on se pose pas de problème, mais comme vous disiez, c'est vraiment du délire, hein, c'est vraiment les efforts de l'air pour sortir du poumon des oiseaux qui soufflent les poils en plume, le cou de la girafe, etc. Alors ça, c'est clair que ça ne sera pas le goût du jour, et on associe la marque à l'idée d'hérédité des caractères actifs, hein, alors c'est encore l'expression qui est pareil, les caractères acquis, tous les caractères sont acquis, mais donc ce qu'on veut dire, c'est l'hérédité des effets de l'environnement sur l'organisme. Et effectivement, la marque a poussé très très loin ce truc-là, mais tout le monde y croyait, y compris Darwin, l'hérédité des caractères acquis. C'est seulement en 1883 que Weissmann a commencé à montrer que ça ne marchait plus, et il a fallu attendre les années 50 pour que la France comprenne que ça ne marchait pas. Enfin, je vous ai dit que la France n'a pas fait l'hygiénisme, mais la France a fait de l'hygiénisme. Les lois hygiéniques de Vichy, c'était pour améliorer l'environnement, pour améliorer les résultats. On était dans une démarche absolument remarquée. Bon, il faut bien dire que probablement, si vous avez des mécanismes de type Lamartine, pour le moment, on n'a pas trouvé un seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme adaptatif qui a été trouvé. On trouve des perturbations qui se transmettent, c'est tout, comme des perturbations endocriniennes. Donc, pour le moment, on ne trouve rien de plus que ça. Donc, savoir si un jour on trouvera quelque chose de positif qui se transmet, ça sera un peu plus. Et si chez les plantes on a trouvé une perturbation qui pourrait, dans certaines conditions, être positive, ce qu'on appelle les pélories, les répétitions de la même fleur en plusieurs exemplaires en cercle. Mais enfin, globalement, si vous voulez, c'est pas un état, il n'y a pas d'hérédité d'une vraie acquisition, d'une acquisition adaptative, ça on n'a jamais trouvé. Voilà. Je crois pas que ça va être la marque, malheureusement.
Merci. Une question pour M. Delamonica.
Par rapport à votre question, si vous voulez, quand on se met dans un milieu naturel, il y a des bactéries, il y a des champignons, tous ces éléments peuvent produire des substances antibiotiques. Donc, ceci est une explication peut-être partielle pour dire que dans les gènes des bactéries, il y a déjà des mécanismes qui sont archivés depuis des siècles, des millénaires, des dizaines de milliers d'années, voire millions d'années. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'elles ont été opposées à des conditions d'environnement qui sont modifiées dans le temps. Ben, donc, ce qui fait que, si vous voulez, ces bactéries ont un patrimoine génétique qui est là, et puis s'il y a une modification d'environnement qui intervient, en l'occurrence antibiotique par exemple, ou les biocides, vous savez, les trucs qui désinfectent tout du sol au plafond dans les maisons, eh bien, les bactéries. Si elles ont un mécanisme de résistance, eh bien, elles vont l'activer à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est l'environnement, c'est l'épigénétique de la bactérie, je dirais, qui va faire que le mécanisme va se déclencher. Ou si elle ne l'a pas, ben, elle peut éventuellement échanger avec d'autres, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, si vous voulez, tous ces mécanismes sont évidemment très difficiles à appréhender. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'obésité, des gènes, par exemple, de tout ça. Mais on sait aussi que le microbiote intestinal de chacun va jouer un rôle dans ce type de pathologie. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, on ne peut pas vraiment répondre à votre question. C'est donc une très bonne question.
Une autre question. Au professeur Delamonica, qui a répondu partiellement tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure que l'antibiorésistance est beaucoup fonction de la pression de la prescription de la part des prescripteurs. Et c'est vrai que je voulais aborder le problème de la prescription d'antibiotiques chez les animaux, en particulier vivants et ceux que l'on consomme, puisque vous disiez tout à l'heure que dans l'antibiorésistance antibiotique, il y avait deux phénomènes. Il y avait les médicaments, mais il y avait aussi les contacts, les échanges de bactéries résistantes. Donc, est-ce qu'on a des études pertinentes d'impact donc de la prescription dans l'animal, donc soit vivant, soit mort, sur la résistance chez l'humain?
Alors, effectivement, c'est une question tout à fait pertinente et il y a quelques études. Alors, on a quelques études sur des staphylocoques dans les élevages porcins, certaines entérobactéries multirésistantes, les entérocoques. Par exemple, quand on utilisait l'avoparcine dans l'élevage animal, ça sélectionnait le même gène de résistance que celui de la résistance à la vancomycine qui a été utilisée en humain. C'est pour ça que j'ai dit utiliser des noms différents, ce n'est pas que la solution, hein, c'est des mécanismes différents qu'il faut utiliser. Donc, si vous voulez, tout sélectionne tout. Hein, et on sait bien, et on a bien remarqué, que dans les pays où il y a moins de consommation d'antibiotiques, notamment humaines et animales, parce que là, on parle plus des animaux, parce que nous, on est des docteurs, mais attention, on fait mal, hein, quand même, très mal en France. Donc, il faut bien se souvenir de ça, hein, quand même. Le message principal, c'est celui-là. Donc, si bien moins on en prescrit, moins la résistance émerge, même si elle existe. Et Le meilleur exemple, c'était la campagne antibiotique belge, où ils ont fait pendant 3 ans. Donc, ils ont vu la consommation baisser, ils ont vu la résistance baisser. Ce qui est normal, ça va ensemble. Et ils ont dit, ben, c'est gagné, on arrête. On désinvestit, on va faire autre chose. Et 2 années plus tard, le niveau de résistance était remonté à un niveau encore supérieur à celui qui était étudié antérieurement. Donc, si vous voulez, c'est un fait continu que de moins prescrire. Et pour ça, il faut utiliser tous les outils dont on dispose pour moins prescrire. Alors, je ne sais pas si j'arrive à vous convaincre, mais pensez qu'un Suédois ou un Norvégien ou un Danois va consommer 3 fois moins d'antibiotiques prescrits par le docteur, hein, je ne parle pas des animaux là, par le docteur, qu'un Français, quoi. Donc, il y a de la marge.
Plusieurs millions encore.
Excusez-moi, j'en fais un peu de temps, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, puis j'ai même travaillé dessus, j'ai travaillé sur quelque chose dont je voulais que vous sachiez que ça existe, à propos justement des problèmes. On a entendu dire tout sélectionne tout en quelque sorte, et c'est tout à fait vrai. En sélectionnant sur différents antibiotiques, si vous soumettez une population bactérienne à différents antibiotiques, vous sélectionnez à chaque fois des mutants de résistance. Mais au bout d'un moment, à force de faire ça, vous sélectionnez pas seulement des mutants de résistance. Vous sélectionnez des mutants de mutation. Il y a ce qu'on appelle des gènes mutataires, c'est-à-dire que vous sélectionnez des bactéries qui mutent plus que les autres. Et à ce moment-là, elles deviennent particulièrement aptes à trouver des solutions à tous les problèmes, y compris aux zones antibiotiques auxquelles elles n'avaient jamais été soumises. Donc ces mutateurs, c'est un élément essentiel de l'environnement bactérien pour nous, et ça veut dire que plus on joue mal avec les antibiotiques, que ce soit au niveau médical ou au niveau vétérinaire, plus on sélectionne des bactéries mutatrices. Je vais vous dire jusqu'où ça va. Une bactérie du maïs, qu'on a traitée par différents antibiotiques pour débarrasser le maïs, elle est devenue hyper mutatrice et elle s'est mise à infecter les patients dans les hôpitaux. Une bactérie, quand elle mute suffisamment, devient capable de faire des changements aussi violents que ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, ce problème de traiter les bactéries de telle façon qu'on est hyper mutatrice.
Merci. Une question dans la salle, je crois.
C'est moi. Voilà. Bon, justement, vous avez parlé des antibiotiques, vous venez de répondre au côté animal, c'est très intéressant, je voulais vous poser la question. Justement, les antibiotiques, vous mettez en avant les vaccins. Alors, que ce soit clair et net, c'est assez passionnel comme sujet. Je ne suis pas une anti-vaccin, mais j'ai plein de questions sur les vaccins. Premièrement, ça s'adresse à une population en bonne santé. Secondo, on a décidé que les vaccins n'avaient aucun effet secondaire, qui me paraît scientifiquement, ou comme dire qu'un médicament n'a aucun effet secondaire, tout aussi stupide. Et troisièmement, on parlait de l'adéquation, de l'utilisation adéquate des outils. Alors, moi, le vaccin m'intéresse beaucoup, sauf que l'utilisation massive qu'on est en train d'en faire avec une espèce d'empilage me pose les mêmes questions que l'utilisation des pesticides et des antibiotiques. On est en train de sélectionner, vous avez vu le nombre de milliards de bactéries qu'il y a, on ne parle que d'éradiquer. Je pense que quelque part, il faut qu'on change de conception et de discours. Si vous voulez éradiquer toutes les bactéries qu'on va rendre pathogènes par rapport à notre mode de vie, par rapport à l'utilisation des vaccins, vous éradiquez une maladie, il n'y a pas de vie dans la nature, il n'y aura jamais de vie dans les bactéries, vous en avez d'autres. Je voudrais juste qu'on se questionne, et encore une fois, je ne suis pas une anti-vaccin, moi je me posais justement la question, l'éradiquer et la vaccination en général, ou plutôt une vaccination ciblée, pour moi ça me paraît beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire des sujets à gros risques, des sujets malades pour éviter d'autres choses, ça me paraît très intéressant, mais l'idée actuelle d'un empilage complètement anodin, déjà individuellement je pense que c'est faux, et complètement anodin sur l'évolution de la pathologie, ça me paraît débile au niveau scientifique. Sauf que voilà, ça me stresse énormément, et je profite qu'il y a des gens hyper importants ici pour poser un sujet et en débattre, et j'ai pas de solution, mais c'est l'utilisation des outils correctement et réfléchir.
Peut-être pas le temps de tout traiter dans votre intervention. Je vais interroger le professeur Brocchi sur ces sujets, parce que lui, il est confronté à des maladies non éradiquées, précisément.
Pour répondre à votre question, d'abord quelque chose de relativement clair. Si on peut faire des vaccinations ciblées, oui, c'est-à-dire quand on peut cibler une maladie, une population très à risque, et faire la vaccination que dans cette population, pourquoi pas. Ce débat du vaccin est un faux débat. C'est, si vous voulez, c'est une croyance qui s'oppose à la science. Alors la croyance, si vous voulez, c'est croire que les vaccins peuvent avoir des effets secondaires sans que pour l'instant on ait pu réellement le démontrer, à l'exception d'un certain nombre, dans certaines conditions et sur un certain nombre de gens. Ça, c'est la croyance. Et l'autre côté, il y a la science qui montre que quand on vaccine les gens, on les protège des maladies. C'est ça la différence. Et on sera toujours opposé à ce débat entre une croyance et la science. Donc, le débat n'a pas de fin. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que en refusant de vacciner quelqu'un, vous lui enlevez la chance d'être protégé contre une maladie, et la plupart des vaccins couvrent en 95%, bon, après il y a quelques exceptions, des vaccins qui sont plus ou moins efficaces, mais en règle générale, les vaccins protègent relativement bien. Donc, en refusant de vacciner quelqu'un, vous lui ôtez la chance, si vous voulez, d'être protégé contre une maladie. En ne le vaccinant pas, vous n'avez aucune mesure du risque actuellement de lui donner quelque chose. Donc, encore une fois, il faut être très très clair, c'est un débat qui n'est pas passionnel, mais qui n'est pas un débat scientifique. Donc, je ne peux pas vous dire plus que ça.
Voilà, on va peut-être en rester là à ce stade. On prendra évidemment des débats cet après-midi entre vous-même et les intervenants, mais là, le temps est venu un petit peu de passer à d'autres types de bactéries. Pardon, vous aviez quand même une question.
Juste à... Excusez-moi.
Oui, mais on va quand même, après, il faut quand même tout dire.
C'est une question très pratique, en fait, qui s'adresse plutôt au professeur Brocchi. Dans notre région, on a vu arriver un comportement animalier un peu particulier. Je pense aux sangliers dans le Var, par exemple, ou je pense en particulier aux moustiques dans la région de Marseille. On a eu une période avec beaucoup d'insectes cet été. Et je voulais savoir si ça avait, sur le plan de la santé publique, une influence, une incidence pratique, en particulier sur la fièvre boutonneuse méditerranéenne, ou quelle a été l'influence de ces moustiques tigres qui sont arrivés chez nous, en particulier cet été.
Vous anticipez sur la deuxième.
Oui, mais la réponse va être très très courte. Si vous voulez, comme je le disais, effectivement, depuis l'arrivée des moustiques tigres, donc dans. Finalement, et notamment dans le bassin de Nice, il y a une surveillance épidémiologique qui est extrêmement bien faite, qui est extrêmement précise, si vous voulez. Et à l'heure actuelle, on n'a pas d'émergence. Si vous voulez, on a eu quelques cas particuliers, d'accord. On a eu 4 cas, si je me souviens bien, 2 de chikungunya et 2 de dengue. Donc, ce n'est pas une véritable émergence. Et il y a une surveillance très importante, et vous avez raison, des moustiques, il y en a partout. Dans mon jardin, j'en ai une quantité abominable, effectivement. Et comme je vous l'ai dit, les facteurs d'émergence sont très complexes et on ne peut jamais les anticiper en fait. Donc on peut avoir le facteur, on peut avoir effectivement l'agent et parfois la mayonnaise ne prend pas. Bon, c'est bien, pour l'instant la mayonnaise n'a pas pris dans notre région, ça ne veut pas dire qu'elle ne prendra jamais, mais ça veut dire que pour l'instant le risque sur le plan, on va dire, de santé publique est un risque qui est minime, qui convient de surveiller et sur lequel bon, il y a d'autres priorités de santé publique.
Alors encore, juste une pause. Donc,
voilà, je suis médecin généraliste installé en libéral. Je voudrais poser une question très pratique. En tant que médecin traitant, je suis prescripteur. J'ai compris que je pouvais encore faire des efforts concernant les antibiotiques. En tant que médecin de famille, médecin de proximité, j'ai juste une question, un avis à vous demander. C'est quels outils je peux utiliser pour mieux dépister et pour mieux prendre en charge les pathologies de l'environnement en tant que médecin de famille sur un territoire donné.
Ça, c'est pour
moi. Voilà. Oui, c'est une grande question, puisqu'effectivement, la problématique de la santé environnementale n'est pas inclue dans l'enseignement de la médecine. Donc, déjà, c'est une grosse lacune. Et après, je pense que justement, comme le disait avec justesse Pierre-Henri Bouillon, il faut se renseigner, aller à ces congrès et voir un petit peu comment on peut, au quotidien, quand on a un patient en face de soi, éveiller, d'abord être capable de répondre à ces questions, parce que les questions sur le lien entre santé et environnement, je suis enceinte, est-ce que je peux mettre des parfums, etc., etc. Eh bien non, depuis 10 ans en Suède, les parfums sont interdits à toutes les femmes enceintes, les maquillants, les teintures sur les cheveux, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens. Mais pour ça, il faut se faire aussi sa culture. Et ça, c'est le problème de ce que j'appelle l'environnement cognitif, c'est-à-dire qu'il faut essayer de se renseigner, de regarder autour de soi, d'ouvrir ses yeux. Comme je le disais tout à l'heure, on a été très bien formés pour le soin, on a été même très fortement formatés, tellement formatés qu'on a oublié
qu'il y avait autre chose que le soin et que la santé, ce n'était pas exactement soin. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut essayer de faire. Et je pense que, j'imagine que le fait de passer deux jours là, bah, j'espère, chère confrère, que vous aurez un regard un peu différent sur ce qui se passe avec vos patients.